rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous culture. Aujourd'hui, nous allons vous parler des Enfants sans roi de Delphine de Vigan, les forêts de Dracula de Raphaël Eviana, le chagrin des vivants d'Anna Hope, Ne t'arrête pas de courir de Mathieu Palin. Nous enchaînerons avec Milwaukee Blues de Louis-Philippe d'Alembert et puis aussi L'embarras du choix Laure Manel, 4h22 minutes 18 secondes de Lionel Shriver, Mon maître et mon vainqueur de François-Henri Désérable et pour le dernier livre Zébu Boy d'Aurélie Clément. Puis nous vous recommanderons une série au service de la France. Mais tout de suite, Frédéric va vous parler des Enfants sans roi.
Bonjour. Donc je vais vous parler de ce livre de Delphine de Vigan, Les Enfants sans roi, paru l'année dernière. Donc je présente succinctement Delphine de Vigan, qui est déjà assez connue, du moins en France. Elle est née en 1966. Son premier roman est paru en 2001 aux éditions Grasset sous le pseudonyme de Lou Delvig, pour ne pas heurter sa famille, qui était opposée à sa vocation. En 2011, elle obtient le prix du roman FNAC, le prix roman France Télévisions et le prix Renaudot des lycéens pour Rien ne s'oppose à la nuit, ainsi que le grand prix d'électrice Elle. En 2015, son roman D'après une histoire vraie est couronné par le Renaudot et le Goncourt de lycéens. Le roman est adapté pour le cinéma par Roman Polanski avec Eva Green et Emmanuel Seignier. Donc j'en viens aux Enfants sans roi, qui décrit en 2021 l'enfer des réseaux sociaux et de la télé-réalité avec une rare acuité et une violence très dure. Alors, c'est l'histoire de Mélanie Clot et Clara Roussel. Elles se rencontrent lors d'une enquête, car Clara est policière et Mélanie est... sur
YouTubeuse,
oui, voilà. À travers l'histoire de deux femmes au destin contraire, les Enfants sans roi explorent les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Des années loft aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où tout s'expose et se vend jusqu'au bonheur familial. C'est vrai que... Enfin, je n'en dis pas plus, car j'ai l'habitude de divulguer le contenu des romans, donc je m'arrête là. Alors, moi, ce que j'en ai pensé, c'est que déjà le livre est très glaçant, mais en même temps très réaliste, qu'elle décrit précisément tout ce monde des youtubeurs, des influenceurs et de la télé-réalité. Delphine de Vigan n'accorde pas ses violons pour servir un texte larmoyant ou accusateur. Son ton est tranché, clinique et fait froid dans le dos. Elle décrit au scalpel la lente descente aux enfers d'enfants vendus sur la toile en échange d'un grille-pain et de Winnie l'ourson ou encore d'autres cadeaux. Avec Les Enfants sans roi, nous avons ici un livre qui pointe avec intelligence les dérives d'une société surdimensionnée, conditionnés par des pantins de pacotille où des êtres innocents ne sont pas nés à la bonne époque. Protégeons nos enfants, exposons-les au livre, à la culture, au grand air. Apprenons-leur que la seule richesse se trouve dans une émotion palpable, nichée dans un monde réel et humain. Je passe la parole à Christiane.
Oui, Christiane. Ouais.
Oui, bonjour
Christiane. Vous allez nous parler de Chagrin des vivants d'Anna Hope, un très beau roman.
Oui. Voilà, donc l'action de ce roman se situe à Londres en 1920. La Première Guerre mondiale, donc la Grande Guerre, a pris fin, mais continue d'affecter douloureusement la vie des soldats survivants qui sont revenus traumatisés, blessés, qui hantent un petit peu les rues de Londres et bien entendu les familles des soldats disparus au combat. Le gouvernement anglais décide de rapatrier le corps d'un soldat anglais non identifié, mort sur les champs de bataille en France, et de l'enterrer avec beaucoup de grandeur, de cérémonial, à l'abbaye de Westminster le 11 novembre 1920. Voilà, titre très très symbolique. Et cet événement va permettre à trois femmes d'âges différents, qui ne se connaissent pas, qui n'ont apparemment aucun lien entre elles, de se trouver, du fait de l'histoire, reliées, l'une par la perte d'un fiancé, l'autre par la mort tragique de son fils, et enfin la troisième par l'aveuglement d'un frère. Donc c'est un roman avec une écriture très soignée, beaucoup de pudeur, je dirais, à l'anglaise, pour laisser s'exprimer les chagrins, les regrets, révéler petit à petit, au fil des pages, des secrets bien cachés. C'est un magnifique roman, très éclairage différent sur la Première Guerre mondiale, pour les survivants, et surtout sur la difficulté de faire le deuil tant qu'on ne connaît pas la vérité et qu'on n'accepte pas la réalité de la perte. Voilà, donc une très très belle lecture d'une excellente autrice anglaise.
Très bien, ça donne envie de le lire. Merci beaucoup Christiane. Et Aurore va nous parler d'un livre fantastique, Les forêts de Dracula.
Oui, bonjour à tous. Eh bien, en fait, Les forêts de Dracula, c'est un roman court, format qu'on appelle aussi novella, avec deux L, rien à voir avec les telenovelas espagnoles. Et ce roman utilise le mythe de Dracula pour symboliser une cruauté encore plus ignorée, j'ai envie de dire, aujourd'hui. C'est une jeune auteure qui l'a écrite, puisque Raphaël Eviana, c'est son premier roman. Et elle nous plonge dans l'Europe de l'Est actuelle, à travers les yeux de Nathan. Nathan, c'est un journaliste qui est bien décidé à faire un papier solide sur le meurtre d'un garde forestier roumain. Un acte sans doute commandité d'ailleurs par la mafia locale. Et c'est là le point de départ d'une investigation qu'il sait être très risquée, mais qui pourrait lui valoir un Pulitzer. Donc du coup, Nathan n'hésite pas à aller dans les forêts des pays de l'Est pour cette enquête. Par contre, il ignore tout de ce qu'il attend à l'ombre de ces forêts denses. Et c'est là que Raphaël Eviana arrive à nous emmener dans un univers bien réel, malgré le brouillard fantastique qui rôde autour de celui qu'on appelle le conte. Par la plume simple et fluide de cette fiction, elle décrit un drame écologique et nous propose même quelques articles sources en fin de roman pour alimenter notre réflexion. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et j'en profite pour saluer sa démarche, puisque cet auteur a fait le choix courageux de l'auto-édition en finançant ce premier roman via une campagne participative sur Ulule. Campagne qui a remporté un franc succès. Et voilà, le livre est actuellement en vente uniquement sur le site BOD pour le moment. Mais si vous souhaitez encourager une jeune auteure prometteuse et engagée, bah voilà, vous savez quoi faire. Les forêts de Dracula de Raphaël Eviana.
Oui, merci Aurore. Et moi, je vais vous parler de Ne t'arrête pas de courir de Mathieu Palin aux éditions L'Iconoclaste. Il a eu le prix Interallié. Et après la lecture d'un article sur Toumani Koulibaly, ce coureur de 400 mètres, champion de France en salle en 2015, et qui, le soir même de son titre national, a cambriolé une boutique de téléphone mobile, Mathieu Palin a décidé d'aller à la rencontre de cet athlète en prison. Ainsi, pendant 2 ans, le journaliste lui rend visite chaque mercredi. Champion le jour et voyou la nuit, c'est ce dilemme qu'il tente de percer en dialoguant avec lui. Il veut comprendre comment un jeune garçon si doué se saborde-t-il ainsi. Et dès les premières pages, on est immergé dans la réalité du parloir d'une prison. Toumani se raconte, il est issu d'une fratrie malienne dont il est le 5e sur 18 enfants. Il est le seul qui a mal tourné. Il est gentil, poli, mais il ne sait pas dire non aux sollicitations. Et il a développé une véritable addiction au vol depuis son enfance. On découvre un personnage complexe, faussement nonchalant et très lucide. Il parle aussi de son univers, le monde des entraîneurs bénévoles, qui sont à la fois assistants sociaux, coachs, éducateurs, et ça après leur journée de travail. Ils sont nombreux à avoir tenté de l'aider, tellement il était attachant et prometteur. Et c'est en questionnant ce destin singulier, au fur et à mesure des entretiens au parloir, il y a un lien très fort qui s'est créé entre les deux hommes, et ils ont noué une véritable amitié. D'ailleurs, Mathieu Palin a écrit ainsi « Je voulais qu'il change, qu'il arrête de voler, qu'il devienne champion olympique du 400 mètres. J'avais envie d'y croire. » Mathieu Palin a un grand talent pour reconstituer le parcours de Toumani d'une manière particulièrement vivante. C'est son deuxième livre, après Sale Gosse en 2019, où il parlait des services sociaux pour mineurs et où il était question de football. Ici, le journaliste s'interroge aussi sur les raisons qui l'ont poussé à s'interroger à cet ovni sportif. Car ce n'est pas anodin. Ils ont tous les deux le même âge. Ils sont issus de la même banlieue et ils partagent un rêve sportif avorté. Mathieu aurait aimé faire carrière dans le foot et Toumani voit la sienne brisée par son comportement. Ces éléments donnent beaucoup de profondeur au livre qui n'a rien d'une simple biographie. Mathieu Palas est profondément impliqué dans ce texte et c'est sincère, sensible, sans complaisance ni jugement. Ils se dévoilent l'un et l'autre, sans tabou et dans toute leur fragilité et contradiction, et avec émotion. C'est donc une histoire d'amitié et c'est de la littérature du réel, un livre d'une grande humanité, bouleversant de bout en bout, en plus d'être passionnant. Notamment parce que l'auteur interroge notre société, la place du sport dans les milieux modestes, le manque de moyens des clubs sportifs, et bien sûr le sujet de la rédemption d'un homme face à ses erreurs, le problème de la justice parfois dysfonctionnelle, la pertinence des maisons d'arrêt avec tous ces prisonniers qui sont hors la vie. La question qui m'a particulièrement touchée est la réflexion que soulève la phrase de Toumani. J'ai plus d'adrénaline quand les flics me courent après qu'en remportant un 400 mètres. Cet aveu montre bien l'ambivalence du sportif, qui reçoit l'aide de psy, passe des diplômes et qui désire sincèrement s'en sortir pour offrir à ses enfants autre chose qu'un père en prison, mais il n'y arrive pas. Toumani va sortir de prison. Mais que va-t-il faire de sa liberté? La question reste ouverte. Nous vous proposons maintenant une pause musicale avec un artiste qui nous fait l'honneur de venir ce soir à Compiègne. C'est Benjamin Biolay en concert à l'espace Jean Legendre. Et pour vous mettre dans l'ambiance, nous avons choisi un titre plein de légèreté, de nostalgie et d'amour, Parc fermé, en duo avec Adé, la chanteuse de Thérapie Taxi.
Yeah.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Alors, je vais vous parler maintenant de ce magnifique roman de Louis-Philippe d'Alembert, paru l'année dernière, Milwaukee Blues. Alors, quelques mots de l'auteur. Louis-Philippe d'Alembert est un écrivain d'expression française et créole, né en Haïti en 1962. Il est fils d'une institutrice et d'un directeur d'école. Le décès de son père, quelques mois après sa naissance, a des conséquences dramatiques sur la situation matérielle de la famille. Il en tirera un roman intitulé « Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme » en 1996. De formation littéraire et journalistique, d'Alembert travaille comme journaliste d'abord dans son pays natal avant de partir en 1986 en France pour poursuivre des études qu'il achève à la Sorbonne. Prix de la langue française en 2019, Louis-Philippe d'Alembert nous plonge dans l'Amérique d'aujourd'hui, où la ségrégation est toujours dans les esprits. Depuis qu'il a composé le 911, le gérant pakistanais de la supérette de Franklin Heights, un quartier au nord de Milwaukee, ne dort plus. Ses cauchemars sont habités de visages noirs hurlant « Je ne peux plus respirer. I can't breathe ». Jamais il n'aurait dû appeler le numéro d'urgence pour un billet de banque suspect. Mais il est trop tard et les médias du monde entier ne cessent de lui rappeler la mort effroyable de son client de passage, étouffé par le genou d'un policier. C'est bien sûr le meurtre de George Floyd en mai 2020 qui a inspiré à Louis-Philippe d'Alembert l'écriture de cet ample et bouleversant roman. Mais c'est la vie de son héros, une figure imaginaire prénommée Emmett, comme Emmett Till, l'adolescent assassiné par les racistes du Sud en 1955, que Louis-Philippe d'Alembert va mettre en scène, la vie d'un gamin des ghettos noirs, que son talent pour le football américain promettait à un riche avenir. Emmett subit d'abord un échec, puis un second, jusqu'à la blessure fatale. L'échec fait alors basculer son destin, et c'est un homme voué à collectionner les petits boulots, toujours harassé, qui, des années plus tard, reviendra dans sa ville natale jusqu'au drame sur lequel s'ouvre le roman. La force de ce livre, c'est de brosser de façon poignante et tendre le portrait d'un homme ordinaire que sa mort terrifiante a sorti du lot. Avec la verve et l'humour qui lui sont coutumiers, Louis-Philippe d'Alembert nous le rend aimable et familier tout en affirmant, par la voix de Ma Robinson, l'ex-gardienne de prison devenue pasteur, sa foi dans une humanité meilleure. Je passe la parole à Aurore.
Oui, merci Frédéric. Eh bien, moi j'ai envie de vous parler de L'embarras du choix de Laure Manel. L'embarras du choix, c'est l'histoire d'une femme qui, devant l'autel, au moment crucial de dire oui, imagine ce que sera sa vie dans quelques années. Dire oui, ok, mais après. Le temps d'un battement de cils, on découvre le film qu'elle se fait dans sa tête, là, alors que tous les invités attendent qu'elle prononce ces fameuses trois lettres. La narratrice se projette alors dans trois périodes différentes de sa vie avec son époux imminent. On la suit dans sa projection au bout de 7 ans de mariage, puis 15, puis 22 ans. Qu'en est-il de leur couple à ces moments-là ? Quelles sont les situations qui pourraient l'entraîner à déraper, à regretter ce oui qu'elle s'apprête à dire, ou simplement à se lasser de cette vie maritale ? L'auteur, Laure Manel, choisit des moments clés d'une vie pour en tirer une histoire beaucoup plus réaliste que l'on croit. Elle sait varier les situations et nous les rendre crédibles. Son écriture suscite notre empathie et pose des questions universelles sur l'amour et sur le quotidien d'un couple qui a en apparence tout pour aller très très bien. La narratrice dira-t-elle oui après tant de projections d'un avenir incertain ? Parce qu'au bout du compte, on a beau imaginer ce qui pourrait se passer, l'avenir détient ses propres réponses. L'embarras du choix, c'est une remise en question permanente des choix que nous faisons dans notre vie et une leçon d'humilité aussi, à travers une écriture fluide, sensible, qui ne manque ni d'humour ni de pudeur. Laure Manel nous emmène avec cette narratrice. Un moment de lecture et de détente à travers une écriture fine, sans se départir d'un petit moment de réflexion sur soi quand même.
Merci Aurore. Christiane, vous allez nous parler de 4h22 minutes 18 secondes.
Oui. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette durée? Eh bien, c'est la durée record du marathon que vise à atteindre Remington. Qui est Remington? Remington, c'est un Américain de 65 ans qui n'a jamais fait de sport de toute sa vie et qui annonce un matin à sa femme qu'il va faire un marathon. Sa femme, Serenata, elle a toujours entretenu sa forme physique, mais elle doit y renoncer progressivement car elle a de l'arthrose au genou de manière assez grave. Donc c'est le début d'un défi. Remington ne fait pas des choses à moitié. Il s'investit à fond dans le matériel, les entraînements, l'alimentation, tandis que Serenata l'observe d'un œil très inséré et très critique et conteste un petit peu cette nouvelle passion à laquelle elle n'adhère pas du tout. Le marathon se passe et Remington, cette fois, se lance un nouveau défi, encore plus difficile, la préparation d'un triathlon sous la houlette d'un coach Bambi. Et on va suivre donc cette préparation pendant plus d'un an avec ferveur, douleur, souffrance et surtout beaucoup d'argent. Derrière cette critique très mordante et ironique de l'obsession de la performance, quel que soit le prix à payer, Lionel Shriver explore la peur du vieillissement et du déclin. Comme si ces défis hors normes n'avaient que pour but de se prouver que l'âge n'est pas un obstacle, que la volonté suffit, que le corps n'a pas de limite. Ce sera aussi le moment pour ce couple de tester la solidité de leur relation et de lui donner une nouvelle impulsion pour vieillir ensemble. Alors un style propre à cette écrivaine mordant, beaucoup d'humour, et puis un livre qui ne donne surtout pas envie de faire du marathon, voire du triathlon. Mais je vous laisse seul juge.
Justement, je me demandais si ça donnait envie de faire le marathon.
Ah ben, vous verrez.
Ouais. Bon, en tout cas, il a l'air très drôle. Ben, merci beaucoup, Christiane.
Voilà.
Et ben, moi, je vais vous parler de « Mon maître et mon vainqueur » de François-Henri Désérable. C'est le quatrième livre de l'écrivain. C'est un roman brillant, un mélange de genres. On est d'abord dans un univers de romans policiers, avec un incipit imparable pour créer le suspense. J'ai su que cette histoire allait trop loin quand je suis entrée dans une armurerie. Nous sommes dans le bureau d'un juge d'instruction. Et presque jusqu'à la fin, on ne nous dira rien des charges qui pèsent sur l'accusé. Et d'ailleurs, qui est l'accusé? Et quel est le crime s'il y a crime? Le narrateur est convoqué comme témoin et fait sa déposition devant deux pièces à conviction, un carnet et un pistolet. Ensuite, nous allons nous retrouver au cœur d'un roman d'amour intense et tragique, par une mise en abîme rendue possible par l'excellent talent de conteur du narrateur, qui nous fait vivre l'histoire qu'il raconte au juge. C'est l'histoire de ses amis, Tina, une femme fiancée à un homme qu'elle aime, mais qui tombe amoureuse d'un autre homme, Vasco. L'héroïne est comédienne, l'amant est poète. Leur histoire n'est qu'une succession d'attirances folles et de répulsions contraintes. C'est l'occasion pour l'auteur de parcourir les tourments amoureux et de disséquer la passion amoureuse pour en scruter les mécanismes. Cet amour extrême entre en résonance avec la passion qu'il y a Rimbaud et Verlaine. D'ailleurs, l'arme qui sert de pièce à conviction est précisément le revolver avec lequel le poète a tiré sur Rimbaud le 10 juillet 1873 à Bruxelles. Vasco l'a acheté aux enchères. Et comme le titre « Mon maître et mon vainqueur » est emprunté à un vers de Verlaine, ce roman se place résolument sous le signe de la poésie, dont il est beaucoup question ici. Il est parsemé de poèmes, du quatrain au haïku en passant par le sonnet classique, qui se trouve dans le carnet de Vasco et que le juge a sous les yeux et il va lire pour demander ensuite à son interlocuteur de décrypter, car ces poèmes fonctionnent comme un journal de bord poétique de la relation des deux amants. Ainsi, l'intrigue se déroule poème par poème. En somme, la parole poétique fait émerger l'histoire. L'auteur a même expliqué dans une interview que le point de départ de son œuvre était des poèmes qu'il avait écrits suite à une rupture amoureuse. Il les a rassemblés, mais plutôt que d'en faire un recueil, il les a enrobés de fiction pour en faire un roman. Mais si la poésie vous effraie, il n'y a vraiment pas de quoi. Car ce lyrisme est sans cesse désamorcé par des traits d'humour, une forme de malice désinvolte et même des loufoqueries. Il y a plein d'éléments astucieux qui vont amuser le lecteur. Déjà, nous avons affaire au même juge qui officiait dans le roman de Tanguy Vielle, l'article 353 du Code pénal. Et c'est assez cocasse de retrouver le personnage d'un roman dans un autre roman, qui plus est d'un autre auteur. Puis notre narrateur se retrouve indirectement impliqué dans l'intrigue, comme désengagé. Ce qui permet des effets de distance ironiques et des adresses au lecteur très plaisantes. Il commente et confie des éléments au lecteur qu'il ne divulgue pas au juge qui est assis en face de lui. Le rythme est enjoué, allègre, le style est aussi brillant qu'enlevé. Et la fantaisie enlève la gravité, mais sans non plus la ridiculiser. Il se moque de la passion amoureuse, mais il la sublime aussi. Dernière anecdote sur ce roman vraiment génial. Après avoir lu ses poèmes commentés par le narrateur, le juge lui dit « Vous devriez en faire un roman ». Chose faite donc, et avec une grande virtuosité. Un dernier conseil lecture avant de parler de série, c'est Frédéric avec Zébu Boy d'Aurélie Clément.
Alors, Aurélie Champagne, l'auteur de Zébu Boy, est aussi scénariste et nouvelliste. Elle a une formation de journaliste. Elle a 20 ans quand elle part à Madagascar en quête de ses origines et d'un père qui n'a jamais été là. Elle y découvre un pays qu'elle racontera à travers une nouvelle sur les événements de 1947, nouvelle qui grandira année après année et formera le roman Zébu Boy, son premier roman publié en 2019 chez Monsieur Toussaint L'Ouverture. Le livre est lauréat du prix Folie d'encre prix et du prix Montluc Résistance et Liberté. Quelques mots de l'histoire de Zébu Boy. Donc, ça se passe à Madagascar en mars 1947. L'insurrection gronde. Peuple saigné, soldats déshonorés, ce soir, l'île va se soulever, prendre armes et amulettes. Zébu Boy, fierté de son père, qui s'est engagé pour la très grande France, s'est battu pour elle et a survécu à la guerre aux Allemands au front Stalag. Héros rentré défait et sans solde, Zébu Boy a tout perdu et a dû ravaler ses rêves de citoyenneté. Ce guerrier sans patrie, sans uniforme, sans godasse, sans mère, qui erre comme attaché à la vie et se retrouve emporté dans les combats, dans son passé, dans la forêt. Donc c'est un premier roman que j'ai beaucoup apprécié, car... C'est le roman d'une quête, celle des origines malgaches d'Aurélie Champagne, inconnue jusqu'à les perdre. Le roman d'une île rouge de terre et de colère. Le roman d'un homme, Zébu Boy. Retracer sa propre histoire pour mieux dessiner celle d'un pays est le résultat étonnant et enthousiasmant de ce premier roman. Symbole de la résistance d'un peuple humilié dans sa langue fleurie et imagée, Zébu Boy dévoile à notre regard conquis un contexte politique, social, spirituel et intime parfaitement maîtrisé. Survivre et vivre libre résonnent comme des incantations parmi ces âmes endeuillées et ces vies indignées. C'est donc vivement que je vous recommande la lecture de Zébu Boy.
Le rendez-vous culture. Des bibliothèques de Compiègne.
Vous allez entrer dans un service d'élite, Berlou. Vous serez formé par des fonctionnaires d'élite.
Service de quoi ?
Au service de la France.
Je vais devenir agent secret.
Il fait un peu pecno, non ?
Vous savez mentir ?
Oui.
Donc non.
C'est pas que je veux pas l'emmener, mais éliminer au service de la France, c'est la base.
Mais qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu ? Le but de la mission, ça n'est pas que de culbuter la cible, c'est aussi de l'empoisonner.
Qu'est-ce que c'est que ce ramassis d'inepties bolcheviques ?
La CIA est là, les Américains.
La CIA. Les enfants comparés au KGB.
Qu'est-ce qu'ils veulent ?
Nous voulons.
Qu'est-ce qu'ils font comme faute ?
Vous êtes le meilleur service secret du monde. Je compte sur vous pour trouver un cadeau pour Marie-Jo.
Une femme moderne, Merlot. C'est une femme qui pense qu'un homme devrait pouvoir être une femme. Et inversement.
Un vrai faux passeport, c'est un vrai passeport avec un faux nom. Un faux vrai passeport, c'est un faux passeport avec un vrai nom.
Il y a aussi le faux faux, qui est un faux passeport avec un faux nom, et le vrai vrai, qui est un vrai avec un vrai nom. Donc un passeport.
Vous détournez un avion pour aller voir un match de rugby ?
Pourquoi vous préférez le football ?
La France vous écoute.
Nous voulons l'indépendance.
Ah. C'est toujours une joie de lutter contre la barbarie.
La plus noble de nos missions.
Bonne journée.
Et un monde sans France, je n'ose même pas l'imaginer.
Voilà, c'était la bande-annonce de la première saison d'Au service de la France. En matière de séries d'espionnage françaises, la référence absolue est bien sûr le Bureau des légendes. Mais il faut compter aussi avec cette excellente série. La première nous convainc par son réalisme, tandis que la seconde privilégie un traitement hautement drôle et parodique du genre. Cette comédie d'espionnage a des airs d'OSS 117, et ce n'est pas un hasard. Non seulement l'action se déroule dans les années 60, mais on retrouve à l'écriture Jean-François Alain, co-scénariste des aventures d'Hubert Bonisseur de la Batte, et de surcroît un des meilleurs auteurs des Guignols. À ses côtés, Jean-André Yerless, c'était le scénariste de Fais pas ci, fais pas ça, et Claire le Maréchal. C'est la première série française à avoir été rachetée par Netflix, et elle a été diffusée sur Arte à partir de 2015. Elle comprend pour le moment deux saisons et de deux épisodes qui sont complètement addictifs. La première saison met en scène le jeune André Merlot, nouvelle recrue au service des renseignements. L'apprenti espion va apprendre l'art délicat de l'espionnage et de la diplomatie, toutes les ficelles du métier, auprès des autres agents. Mais il faut savoir que ses collègues de renseignement font volontiers passer leurs intérêts à ceux de leur pays avant, et ceux de leur pays même avant leurs obligations internationales. Chacun est en charge d'une zone, avec l'assurance de la suprématie française dans le monde, bien sûr, mais se révélera davantage préoccupé par ses notes de frais que par sa mission. Au programme de nos agents, les difficultés de la France face à ses colonies. C'est le temps de la guerre d'Algérie, du général de Gaulle, de la guerre froide, où tous les coups tordus sont permis. La série joue malicieusement avec les enjeux géopolitiques et elle dresse un portrait satirique des années de Gaulle. Sans fausse note, la reconstitution d'époque est impeccable et les détails vraiment bien choisis. Outre les intrigues rocambolesques, mais souvent subtiles, d'espionnage, elle propose une satire mordante de l'administration française des années 60 et de ses règlements ubuesques. Elle s'en donne à cœur joie avec l'inertie administrative. Les procédures archaïques et absurdes, les protocoles zélés, comme les codes étendus, restreints, le code taupe, le tamponnage simple ou double et le remplissage incessant de formulaires. Tous ces rouages absurdes de la bureaucratie donnent lieu à des scènes comiques d'anthologie vraiment hilarantes. C'est osé, incisif, tout est dans la dérision, avec des dialogues savoureux, décalés et décapants. Et les personnages sont truculents, de vrais phénomènes racistes, phallocrates et rétrogrades. Et ce qui les rassemble, c'est leur peau quotidien. Cette série est à voir absolument et on en reparle au prochain pot. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. En conclusion, je dirais que demain, il y a l'inauguration, donc demain, samedi 29 janvier à 15h, de l'exposition Compiègne-Shirakawa, le miroir du temps 1935-1955. C'est sur les deux villes jumelées, à travers des photographies d'époque qui juxtaposent le destin des deux peuples, japonais et français, face à l'histoire. Puis, de toujours demain, samedi 29 janvier, de 17h à 19h, rencontre avec Muriel Bélier, une avocate compiénoise, pour parler de son dernier livre « Un avocat a disparu », dont Aurore nous avait si bien parlé à la précédente émission. Le prochain Ciné-Club aura lieu le vendredi 11 février, à partir de 20h15, avec la projection de « Valse avec Bachir », le film d'animation d'Harry Folman. Le prochain rendez-vous culture au cloître de la bibliothèque Saint-Corneille est le 18 mars et sur la radio Graphite le 25 mars. À très bientôt.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.